L'info du jour avec aujourd'hui Yorick Vion, alpiniste et guide de haute montagne au bureau des guides de Courchevel pour nous parler de ces deux ascensions de l'Everest et du Lhotse au printemps dernier. Yorick Vion, nous sommes à une époque où l'on pense plus au ski alpin et tout au moins aux disciplines des sports d'hiver. Mais lorsque la saison se termine, nombre de guides comme vous pensent au trek ou aux grandes ascensions. Des ascensions qui se préparent méticuleusement et qui, lorsqu'elles sont réussies, apportent à la fois de grandes satisfactions et de magnifiques images. Avant de gravir avec vous, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière, car à la fin de l'année 2021, vous étiez venu nous conter votre ascension des Annapurna, alors que le Covid frappait la terre entière, et que vous vous étiez retrouvé tout seul en bas des pentes vertigineuses, avec vous-même le Covid comme compagnon. Dites-moi, ça laisse des traces, une expérience comme celle-ci, non ?
Bonjour Roland. Oui, ça laisse des traces, sachant que tout était une question de réussite logistique. Et puis là, en l'occurrence, moi j'étais au top physiquement, tout ça. Mais finalement, on a, à cause du Covid, à cause d'une imprévue, de la maladie, mon expédition ne s'est pas passée comme je souhaitais. Donc je suis revenu avec beaucoup d'expérience et puis des images plein la tête. Mais
oui, d'autant qu'à l'époque, vous aviez aussi trouvé quand même une nouvelle voie dans la combe ouest de l'Everest et vous n'y étiez donc pas allé pour rien.
Non, pas pour rien. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens sur place, de me mettre bien aussi avec M. Marc Battard. Et puis c'est ça qui a entraîné derrière cette expédition sur le Nupsé, là où on a essayé d'ouvrir une nouvelle voie d'accès à l'Everest, là où on a plus ou moins partiellement réussi, mais à cause de problèmes logistiques ce coup-ci, on n'a pas pu continuer et ça a repoussé l'année d'après, mais finalement j'y suis pas retourné depuis.
Oui, et puis en 2022, eh bien, vous avez donc préparé la course ultime pour les alpinistes, l'Everest, et c'est 8848 mètres, un sommet que vous avez atteint le 22 mai et que vous allez nous raconter. Alors ce sommet s'inscrivait évidemment dans le cadre d'une expédition toujours préparée de longue date. Et pour cette occasion, vous avez travaillé pour une boîte népalaise, parce qu'on ne se rend pas compte, on a toujours l'impression que ce sont les Occidentaux qui organisent les expéditions, mais là, véritablement, ce sont des Népalais qui l'organisent.
Oui, effectivement, les Népalais, en fait, ont repris la main sur tout ce qui est tourisme chez eux, donc surtout sur les sommets de plus de 8000. Et c'est de plus en plus rare que des boîtes occidentales réussissent à organiser des expéditions sur ce genre de sommet, surtout des expéditions qui fonctionnent, sans casse et sans mort, d'ailleurs. Et du coup, j'ai préparé cette expédition avec la boîte Wika, donc c'est des Népalais, 8K Expedition, et qui m'ont donné la chance d'être leader d'expédition sur ce sommet qui est mythique, l'Everest. Puis je suis assez content et assez fier qu'on soit tous arrivés en haut, sains et saufs et sans gelure. Donc l'Everest était pour moi mon premier 8000 comme guide et ça s'est super bien passé. Donc pour ça, moi je suis très content et très heureux qu'il m'ait fait confiance.
Justement, expliquez-nous d'abord ce que veut dire être leader d'expédition. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs guides et c'est vous qui déterminez évidemment les parcours, les voies?
Ouais, ça veut dire qu'en gros, chaque client a 1, 2, 3, 4 guides locaux, donc des guides Sherpa. Et le leader d'expédition, donc moi-même, mon rôle c'était d'organiser toute la logistique autour de tout ça, donc de donner un peu des instructions aux guides népalais pour que tout se passe bien dans des conditions les plus optimales possibles.
J'imagine que avant de partir, évidemment, et quand on est leader, on doit regarder tous ceux qui viennent là pour faire cette ascension, pour voir si tous sont préparés. On doit craindre parfois que quelqu'un ait une préparation peut-être en dessous de celle des autres.
C'est un peu le problème sur le sommet de l'Everest, c'est que comme techniquement c'est un sommet qui n'est pas très difficile, qui est extrême au niveau de l'altitude et au niveau des conditions météo, mais pas au niveau de la technicité pure. Le problème, c'est qu'on a été obligé d'entraîner les gens souvent avant de partir, avant de monter, donc organiser des camps de cramponnage, des camps spécifiques d'entraînement pour l'Everest en soi, parce que la plupart des clients, malheureusement, sont souvent assez peu expérimentés.
Alors évidemment, dans une expédition comme celle-ci, tout le monde a de l'oxygène, forcément.
Oui. Après, le volume d'oxygène utilisé dépend de la personne, donc, et aussi ça dépend de la logistique. C'est pour ça que je parlais de 2 à 3, 4 Sherpas, parce qu'en fait, plus on utilise d'oxygène, plus il faut emporter, donc plus il faut de guides locaux. Ça va du simple au triple. On peut passer de moi qui ai utilisé une bouteille et demie d'oxygène sur l'Everest en aller-retour du camp 4 à 8100 même, j'ai commencé à mettre le masque, et des clients qui arrivent à pomper jusqu'à 11 bouteilles d'oxygène.
Alors en dehors de ces petits détails techniques, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté lors d'une ascension comme celle-ci?
L'état de forme des gens peut varier, la motivation. En fait, je me suis rendu compte que c'est très difficile de convaincre les gens de faire demi-tour, en fait, parce que...
Ils ont souvent payé cher, ils se disent, j'y suis, je vais aller jusqu'au bout.
C'est ça, donc réussir à les convaincre qu'ils n'ont pas le niveau technique ou physique, en fait, c'est très compliqué. Et ensuite, là où j'ai trouvé que c'était très dur, c'est au-dessus de 8000, avec l'état de fatigue, l'hypoxie, en fait, les gens réagissent plus du tout pareil. Et en fait, on a des surprises, parce que des gens qui étaient très à l'écoute et très capables...
deviennent groggy et ne comprennent plus rien.
Ouais, c'est ça, presque des enfants, des fois. Ouais.
Le 22 mai, vous atteignez donc l'Everest, après quoi vous redescendez évidemment au camp. Mais ce n'était pas terminé, parce que là, vous prenez une décision, pour le coup, intéressante. Vous décidez d'y retourner, mais cette fois-ci seul, juste accompagné d'un Sherpa, mais le Sherpa qui n'était pas là pour vous guider, pour le coup.
Non, en fait, ce qui s'est passé donc, en rentrant au camp 4, c'est que moi, ma journée était terminée, tout le monde était sain et sauf, donc je suis redescendu au camp avancé du Lhotse, donc 8516. J'ai attendu, en fait, qu'un Sherpa et son client arrivent pour monter avec eux, et du coup, le client n'est pas arrivé. Et ce qui veut dire que du coup, je suis parti seul au Lhotse, donc là, cette fois, sans ox, et puis avec le Sherpa Guru, qui lui, en fait, avait été payé pour le faire et qui n'avait pas d'expérience. Donc il a dit, si je peux monter avec toi, je monte avec toi. Donc il m'a suivi. Il m'a suivi au sommet du Lhotse.
Et donc le 22, vous faites l'Everest, le 23, vous faites le Lhotse. Est-ce que c'était raisonnable sur le plan physique d'enchaîner 2-8000 comme ça?
Eh bien, raisonnable, oui, parce que je me sentais vraiment bien. J'avais vraiment les capacités physiques nécessaires. Et puis la motivation.
C'est-à-dire qu'à la fois vous vous sentiez en jambes et avec le souffle nécessaire.
Ouais, voilà, j'avais tout qui allait bien, j'avais passé une bonne journée, l'Everest ça m'avait pas trop atteint. Du coup, je me suis dit, si j'arrive à me reposer suffisamment, et en fait le plus dur finalement c'est mentalement de se dire, allez, faut y retourner quoi.
Alors ce qui est intéressant, c'est que lors d'expéditions comme celle-ci, vous partagez aussi votre position sur Facebook, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes maintenant assez pratiques avec des montres qui permettent de se positionner en permanence.
J'avais un routeur en fait qui envoyer un ping, donc une cible GPS toutes les heures, et du coup tous ceux qui étaient en France pouvaient me suivre en temps réel sur une carte GPS.
Et bien évidemment c'est ce routeur qui vous permettait de collecter la météo. Et
voilà, collecter la météo, de rester en contact avec les gens, je peux envoyer des messages, des textos en fait avec ce routeur, c'est quand même vraiment pas mal.
Aujourd'hui vous pensez déjà aux prochaines expés?
Oui, là au printemps, en mai, je vais partir au Denali en Alaska, donc 3 semaines avec des clients, et puis ensuite normalement en août sur un 7134 mètres le pic Lénine au Kyrgyzstan, donc là je suis quasiment sûr de partir, et après à l'automne je revise des 8000, peut-être un ou deux, on va voir selon si les Chinois ouvrent la frontière ou pas du Tibet.
Bon, et puis en attendant vous faites un peu moins haut, parce que vous faites grimper les jeunes à 13 mètres sur le mur d'escalade.
Ouais, c'est vrai.
C'est important ça, parce que c'est la première approche pour les jeunes. Hein.
Exactement, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment de période de vacances, en fait, le bureau des guides de Courchevel ouvre le soir au forum le mur d'escalade et le parcours à Crobranche, qui veut dire que nous, après la journée de ski, on fait encore des cours d'escalade, donc pour les enfants qui ont envie de le faire. Et aussi, ça peut être vraiment très intéressant les jours où la météo est un peu mauvaise, comme ça, on arrive à proposer quelque chose de différent.
Yorick Vion, alpiniste et guide de haute montagne au bureau des guides de Courchevel, merci d'être venu nous raconter évidemment vos expéditions.
Merci Roland.